Vous écoutez, on lit pour vous.
Tylos, l'île grecque modèle en matière d'environnement. Un texte de Romain Chauvet, paru le 30 janvier 2024 dans Québec Science. Dans la mer Égée, Tylos affirme être la première île zéro déchet. Notre collaborateur s'est rendu sur place un an après le début de l'initiative. Depuis le traversier, Tylos semble être une île comme il en existe bien d'autres en Grèce, avec ses maisons blanches ornées de bougainvilliers roses éclatants au bord d'eau turquoise. Le constat est différent une fois les pieds sur terre. Des bornes de recharge gratuites pour véhicules électriques, des rues extrêmement propres et de petites poubelles de tri sélectif détonnent avec le reste du pays. Tout a tellement changé sur notre île, c'est incroyable. J'ai l'impression de vivre dans un autre endroit, s'exclame Airini Chatsifunta, agente communautaire pour Polygreen. Depuis plus d'un an, cette entreprise a implanté un projet de recyclage des déchets sur l'île de 745 habitants et habitantes, plus 15 000 touristes, qui s'intitule Just Go Zero Tylos. Fini les grandes poubelles qui débordent, les déchets qui s'envolent et se retrouvent sur les plages. Exit aussi le centre d'enfouissement qui a été fermé. Ce sont désormais des véhicules électriques qui sillonnent l'île pour collecter les déchets des résidences et des commerces, séparés selon qu'il s'agit de matières organiques, recyclables et non recyclables. Ils sont ensuite acheminés dans un nouveau centre de tri dans les hauteurs de l'île, où plusieurs mains s'activent pour les classer en 25 catégories, ce qui leur donne une meilleure valeur. Les matières organiques sont transformées en compost utilisé directement sur l'île. Les matières recyclables sont envoyées chez des recycleurs certifiés d'Athènes. L'huile usagée, par exemple, deviendra du biodiesel. Et les objets réparables sont traités dans un centre pour l'upcycling sur l'île, où l'on fait aussi de l'art avec certains rebuts. Enfin, les déchets restants seront traités pour servir ensuite de combustible pour des procédés industriels, ce qu'on appelle de la valorisation énergétique. Plus aucun déchet n'est simplement brûlé sur l'île ni enfoui dans le sol, ce qui était le cas auparavant. Tylos atteint désormais un taux de recyclage de 87%, soit bien au-delà de l'objectif fixé par l'Union européenne de 55% à atteindre d'ici 2025. Ce projet a tout changé. Notre vie, notre air et notre environnement, constate Airini Chatsifunta, native de l'île. Depuis la mise en place de ce projet, plus de 350 tonnes de matière ont été recyclées, contre près de 600 tonnes qui avaient dû être envoyées dans la décharge de l'île en 2021. Évidemment, tout le recyclage n'est pas traité en Grèce. Une partie file vers d'autres pays, comme c'est le cas aussi pour le recyclage canadien. Grâce à une application mobile et à un code QR présent sur les collecteurs de déchets, les citoyens et citoyennes sont en mesure de voir leur taux de recyclage et la quantité de déchets qu'ils produisent. Une sensibilisation qui semble porter ses fruits. Au cours de 2022, les habitants et habitantes ont réduit leurs déchets de 40% selon Polygreen. En effet, le projet veut surtout encourager la réduction des déchets, dont le plastique. L'un des problèmes majeurs à Tylos reste les bouteilles d'eau en plastique. L'eau n'est pas potable sur l'île. Nous devons davantage sensibiliser les gens à cette question-là et les inciter à l'achat de machines de purification de l'eau, ce qui permettra ensuite d'utiliser des gourdes, explique Airini Chatsifunta, qui s'est rendue dans l'école de l'île pour informer les plus jeunes. Le projet souhaite réduire de 30% l'utilisation du plastique et de 20% la quantité de déchets sur l'île d'ici 2025. Tylos fait déjà office d'exception dans le monde, mais particulièrement en Grèce, l'un des pires pays de l'Union européenne en matière de recyclage et de compostage des déchets. Seulement 20% des déchets y étaient recyclés, selon les dernières données disponibles datant de 2019. Plus largement, la question de l'environnement est carrément absente du débat public en Grèce, alors que le pays se trouve dans une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique. Je crois qu'une des explications possibles, c'est peut-être le fait que le pays se trouve dans une crise économique depuis maintenant 15 ans. Les gens pensent beaucoup plus à la façon de boucler leur fin de mois qu'à la question environnementale, juge Ioannis Spilanis, professeur au département de l'environnement à l'Université de Léger. Mais Tilos espère bien qu'avec sa certification Ville zéro déchet obtenue à l'été 2023 de l'Union européenne, elle pourra inciter d'autres îles grecques à lui emboîter le pas. Polygreen veut par ailleurs instaurer le même genre de structure aux Émirats arabes unis, l'État visant à devenir zéro déchet d'ici 2030. Vous écoutez Tilos, l'île grecque modèle en matière d'environnement. Une île avant-gardiste. Tilos n'en est pas à son coup d'essai. L'île s'était déjà démarquée en 2018 avec un autre projet novateur, celui de devenir autosuffisante en énergie. Elle était autrefois approvisionnée en électricité basée sur le diesel par une île voisine. Désormais dotée d'une éolienne et de plus de 500 panneaux photovoltaïques, Tilos produit aujourd'hui plus de 85 % de son énergie en été et génère même des surplus en hiver qui sont exportés. Avant, le système ne fonctionnait pas et il y avait de nombreuses pannes de courant sur l'île, ce qui avait des conséquences financières importantes pour les entreprises touristiques. La différence avec avant est énorme, puisque maintenant le projet génère même des revenus pour la communauté grâce au surplus, explique Georges Pechli-Vanoglou, directeur général du groupe Younis à l'origine du projet. Même si plusieurs études environnementales avaient été réalisées en amont, le projet n'a pas été facile à mettre en place au début, aucune réglementation n'existant encore en Grèce et les réticences étant bien palpables. Tout le monde était contre ou s'en fichait, puis Tilos est arrivé avec son projet. Avec la publicité que cela a générée, maintenant tout le monde veut faire la même chose. Ce projet démontre bien que les gens ne devraient pas être effrayés par le développement vert, mais, au contraire, devraient saisir l'occasion pour agir, dit M. Pechli-Vanoglou. Forte de son pari novateur, Younis veut maintenant aller encore plus loin, en installant davantage de panneaux solaires pour que l'île soit autonome toute l'année. Un objectif qui permettrait d'accroître l'exportation des surplus d'énergie et de réduire considérablement la facture énergétique des habitants et habitantes, voire de la rendre quasi nulle. Tilos a reçu des subventions européennes pour ses projets. Elle n'a pas été soutenue par hasard, mais plutôt en raison de son ouverture. Les gens ici ont toujours eu une grande ouverture d'esprit. Ils ont à cœur de protéger l'environnement depuis très longtemps. La transition s'est faite naturellement, explique la mairesse de l'île, Maria Kama, qui se réjouit aussi de vivre sur une île beaucoup plus propre aujourd'hui. Il faut dire qu'au-delà des projets verts, les habitants et habitantes ont toujours démontré un certain avant-gardisme. Il y a quelques années, l'île avait, par exemple, accueilli des personnes réfugiées à bras ouverts, alors que le reste du pays et l'Union européenne fermaient les frontières. La municipalité, qui utilise déjà plusieurs voitures électriques, veut aussi aller plus loin. Nous voulons maintenant nous concentrer sur l'électromobilité. Nous allons bientôt installer plusieurs dizaines de bornes de recharge sur l'île pour encourager les gens à acheter des véhicules électriques plutôt qu'à essence. Un modèle reproductible? Avec de telles initiatives, l'île de 65 km² est devenue un exemple de développement durable dans la région Égéenne, ce qui suscite beaucoup de curiosité. Beaucoup de gens viennent ici pour voir de leurs propres yeux si tout cela est bien réel. Nous nous sentons vraiment comme une source d'inspiration, confie Eirini Chatsifunta. C'est justement pour voir de ses propres yeux cette île grecque unique que Dawn Ewer a traversé l'océan Atlantique. Sénatrice démocrate de l'Assemblée générale du Rhode Island aux États-Unis, elle est venue en quête d'inspiration pour les îles de son État. Quand un collègue d'origine grecque m'a parlé de Tylos, j'ai tout de suite été intrigué et j'ai voulu mieux comprendre ce modèle qui semblait si innovant et important. Tylos a beaucoup de similitudes avec le Rhode Island, alors j'espère que nous pourrons nous en inspirer, explique-t-elle, attablée dans un petit café du port de l'île avant sa visite des installations. Ce modèle est-il vraiment reproductible ailleurs? Pour le professeur Ioannis Spilanis, cela dépend surtout de la bonne volonté des autorités et de l'implication des résidents et résidentes. Tout repose sur la dynamique locale. Il ne faut pas oublier d'inclure les locaux dans ces projets pour augmenter les chances de succès. Il faut installer la question au cœur des débats et persuader les gens. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais une fois cela fait, c'est gagné. Une inspiration pour le Québec? Pour Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Tylos incarne une application plus poussée de la stratégie des trois R: réduire, réutiliser, recycler. Ils font ce qu'il faut, avec le réemploi et la réparation. C'est certainement un exemple dont il faudrait s'inspirer, sauf pour l'incinération, qui est extrêmement polluante. Il réfère ici à la valorisation énergétique. L'organisme qu'il dirige encourage plutôt l'enfouissement dans un site sécuritaire pour les déchets ultimes. M. Ménard n'est pas étonné qu'un tel projet ait émergé sur une île. Les insulaires sont plus proactifs en matière de gestion des déchets. Les îles de la Madeleine, par exemple, font du compostage depuis longtemps. Plus on vit avec nos poubelles, moins on veut en produire. Ce sont d'ailleurs souvent des pays insulaires ou côtiers qui proposent les nouvelles réglementations, comme celle pour interdire le plastique à usage unique, car ils se retrouvent avec des déchets sur leur plage et doivent gérer les déchets des touristes. C'était Tylos, l'île grecque modèle en matière d'environnement. Un texte de Romain Chauvet, paru le 30 janvier 2024 dans Québec Science.
Coup de foudre au parc à chiens. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse. On y trouve des pitous de tout poil, des babales et des crottes en rafale. Mais dans les parcs à chiens, au lieu de socialisation urbain, certains dénichent aussi des amis, voire carrément l'amour de leur vie. Rencontre avec des couples dont les chemins se sont croisés grâce au flair de leur canidés. C'est une belle histoire qui a germé dans un parc à chiens de Rosemont, pour ensuite fleurir dans une basse-cour gaspésienne. Remontons le fil du temps jusqu'en 2020, alors que la COVID-19 nous éloignait les uns des autres. Alexandra, originaire de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, s'était installée depuis peu à Montréal. Parmi ses plus proches amis, elle pouvait compter sur Paz, un boxeur croisé avec qui elle se rendait régulièrement au parc canin du Père Marquette. Un jour, le portique d'entrée a grincé et son sang n'a fait qu'un tour. Vincent a débarqué avec son jeune chien. J'ai tout de suite eu un croche. Je me souviens très bien du moment où je l'ai vu la première fois se remémorter. Le jeune Rosemontois Purlaine était flanqué d'Arnold, qui venait d'avoir 6 mois. Les deux chiens ont commencé à nouer contact, de même que leurs propriétaires respectifs. Quand on va au parc à chiens après le travail, on ne jase pas nécessairement de job, mais plutôt de nos activités en soirée ou en fin de semaine, ce qu'on prévoit manger, etc. Ça faisait un bon bout qu'on se parlait, et un jour, il m'a dit qu'il cuisinait du bon porc. Je lui ai répondu que je trouvais ça sec. Il m'a invité à souper et on s'est vu pour une date, poursuit Alexandra, allergique aux applications de rencontre, préférant le processus plus naturel et organique que permettent les conversations au parc canin. Précisons toutefois que Vincent n'a pas confié tout le boulot à Cupidon ni au hasard. Je venais d'avoir mon tout premier chien. Oui, c'était pour me tenir compagnie, mais aussi, on ne va pas se le cacher, pour rencontrer des filles. On peut donc affirmer qu'Arnold a eu un sacré flair. D'autant qu'en pleine vague de restrictions covidiennes, les deux tourtereaux pouvaient continuer de se voir grâce aux permissions accordées aux propriétaires d'animaux. Ça a facilité notre rapprochement, confie-t-il. Chien des villes, chien des champs. Étant donné que les établissements acceptant les chiens sont une denrée rare à Montréal, en plus du fait que les salles de restaurants furent longuement fermées en 2020, Vincent n'a pas hésité à convier Alexandra chez lui pour un brunch. Pas de porc au menu, mais un plateau garni, alléchant, de quoi nourrir une belle relation en devenir. Et qui ira loin. Après des expériences en woofing, un programme de volontariat dans des fermes biologiques, le jeune couple passe en 2021 devant une maison à vendre en Gaspésie, non loin de Bonaventure. Rêvant de fonder une ferme éthique, les amoureux se laissent convaincre et déménagent. Paz et Arnold, le duo canin urbain, se trouvent soudainement entourés de poules, lapins, canards, moutons et cochons. Notre ferme a été baptisée la Petite Patrie parce que c'est dans ce quartier qu'on s'est rencontrés, indique le couple qui vend et expédie des œufs de volaille fécondés partout au pays, issus de races rustiques internationales ou de poules de fantaisie. Parallèlement, Alexandra travaille comme intégratrice multimédia pour des formations en ligne, tandis que Vincent est concepteur mécanique. Le parc de Rosemont restera bien loin. « Je ne retourne pas en ville », lâche Vincent, constatant que les deux pitous s'accommodent parfaitement de leurs acolytes campagnards. Le parc à chiens, c'est très bien pour la socialisation, mais ils sont mieux ici. Surtout, qu'Arnold et Paz ont désormais une nouvelle fonction. Garde du corps. Ils veillent sur le bébé du couple, qui a vu le jour il y a 6 mois. Comme quoi, le simple grincement du portique d'un parc à chiens peut ouvrir bien des portes, y compris celle du bonheur. Les entremetteurs à truffes. Paz. Âgé de 8 ans, Paz, dont le nom signifie « paix » en espagnol, est le premier chien exclusif d'Alexandra, laquelle a grandi entourée des pitous familiaux. Quand elle est à l'intérieur, c'est un tableau. On ne la remarque même pas, mais à l'extérieur, elle est très enjouée. On l'appelle la fusée. Depuis qu'on habite en Gaspésie, elle adore jouer dans l'eau à la baie des Chaleurs, raconte Alexandra. Arnold. Après avoir rencontré Paz, alors qu'il n'avait que 6 mois, Arnold est devenu le meilleur ami du chien d'Alexandra. D'ailleurs, tous deux ne portent pas vraiment les petits toutous dans leur cœur. Ce bouvier croisé est le tout premier chien de Vincent et fut baptisé ainsi en référence à Schwarzenegger, une idole de jeunesse de son maître. Il est têtu, mais très affectueux. Il aime aller se frotter aux gens, souligne-t-il. Vous écoutez « Coup de foudre au parc à chiens », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse. « Ton chien, c'est le meilleur pour briser la glace. » Pendant 6 ans, Annie-Claude et David se sont côtoyés dans un parc à chiens. D'abord amis, ils se sont rapprochés quand l'un d'eux a replongé dans le bassin du célibat. Qui a facilité cette union? Ni Tinder, ni Bumble, mais 2 bouilles adorables nommées Benny et Suki. Les atomes crochus entre ces 2 Montréalais ont pris le temps de s'agripper à travers les années. Ils se sont connus au parc canin du Père Marquette, encore lui, se côtoyant presque quotidiennement en toute amitié. Annie-Claude était alors en couple et personne n'avait de visée particulière. Quand elle s'est séparée de son conjoint, partie avec leur chien, elle a rapidement voulu renouer avec la routine canine en adoptant le charmant Benny, un bâtard terrier plutôt placide. Elle a ainsi recommencé à croiser David au parc, toujours accompagné de Suki, son drôle de croisé terrier de Boston Pitbull. Puis, début 2024, elle a fait un premier pas sur une nouvelle voie. J'ai obtenu son numéro via un autre ami du parc à chiens. Ça m'a pris une semaine ou deux avant de me lancer, puis j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invité pour une puppy date, raconte la jeune trentenaire vendeuse de mobilier. Avec leurs animaux, ils sont ainsi partis se balader au boisé Angel, vaste espace prisé par les amoureux des bêtes à Beaconsfield. C'est très romantique, précise Annie-Claude. David, de son côté, n'avait rien vu venir, mais le courant est passé pour l'électricien de métier. J'ai accepté, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a cliqué, parce qu'à part nos chiens qui sont vraiment différents, on est pas mal pareil sur le plan de nos goûts et de nos activités, narre-t-il. Quelques mois plus tard, toute la Smala emménageait sous le même toit. Complice canin. À force de fréquenter le parc qui a permis cette croisée des chemins, le nouveau couple a relevé à quel point il s'agit d'un lieu de socialisation singulier. Annie-Claude et David nous en parlent. C'est comme une micro-société. Et comme aller à la garderie pour voir tes enfants jouer, sauf que tu y vas pendant 10 ans. Tout le monde finit par se parler, se connaître. On sait avec quel chien les nôtres vont jouer. On y trouve toutes les franges et tous les métiers de la société qui s'entraident, se donnent des références, des conseils. On dit qu'on y va pour nos chiens, mais au fond, on aime y aller pour socialiser. Annie-Claude et David ont d'ailleurs remarqué que les habitués connaissent les noms de tous les animaux, mais rarement ceux de leurs propriétaires, plutôt désignés par le papa ou la maman de tel chien. Parfois, et ils en sont la preuve, l'endroit peut se muter en espace de convergence des cœurs, les compagnons poilus favorisant les mises en contact. Quand on parle de briser la glace ou d'avoir un wingman, ton chien, c'est le meilleur. Tu ne lui as rien demandé. Mais il va voir le monde. Les gens disent « Oh, il est cute !» Et voilà, c'est fait. C'est tellement plus facile que d'essayer de rencontrer dans un bar. C'est comme si tu allais à une date, mais sans aucune attente, constate David. Dans ce contexte, on serait tenté de conclure que le chien n'a jamais autant mérité son titre de « meilleur ami de l'homme ». Les entremetteurs à truffes. Benny. Annie-Claude était censée être la famille d'accueil de ce croisé aux airs de terrier poilu qui a été rescapé en Turquie et placé au Québec par Across the Ocean Rescue. En 3 heures, je l'ai adopté. Ricelle qui lui a ouvert ses portes en 2022. Aujourd'hui âgé de 2 ans, Benny est un toutou aussi calme que joyeux. Suki. La chienne de David, plus active, a été recueillie et adoptée en 2016 par l'entremise d'un ami. Ce croisé terrier de Boston Pitbull, de petit gabarit, se distingue par sa queue croche et sa dent de travers. Suki a même l'honneur d'avoir son portrait affiché en grand format sur les clôtures du parc. Au parc canin, moins de pression et plus de liens. En milieu urbain. Les parcs à chiens s'avèrent de drôles de bêtes. Quel est le regard d'un sociologue spécialisé en relations intimes sur ces lieux de socialisation bien particuliers, où peuvent même naître des liens forts entre deux êtres? Nous avons sondé à ce sujet Noé Klein, doctorant à l'UQAM et coordonnateur du projet MACLIC, une étude pancanadienne sur les idéaux amoureux. Au-delà de leur fonction première, soit d'offrir un espace de défoulement pour les chiens, quelles autres fonctions sociales attribueriez-vous au parc canin? C'est un endroit permettant de rencontrer des gens qui, par extension, partagent une partie de nos habitudes. On est amené à y côtoyer des personnes de différents milieux, mais dans un cadre social sans autre contrainte que, par exemple, le travail. On est à mi-chemin entre le loisir et l'obligation. C'est donc un cadre de rencontre assez propice aux échanges personnels, ce qui peut aider justement à créer des liens plus intimes. C'est un cadre assez particulier, une sorte de lieu intime, mais en public, en compagnie de personnes avec lesquelles on partage une routine, mais que l'on ne connaît pas forcément. Si on les compare à des lieux classiques de rencontre comme un bar, quelle différence percevez-vous? L'avantage d'un endroit comme le Parc Canin, c'est qu'il est assez propice à des échanges qui peuvent ne pas être envahissants, dans le sens où il s'agit d'un lieu défini, où l'on entre et d'où l'on repart en fonction de ce qu'on a à y faire. Du coup, il y a toujours cette liberté de rester pour prolonger une conversation ou d'y mettre fin si on n'est pas intéressé, sans qu'il y ait forcément une pression à échanger, parce qu'on n'est pas là pour ça en premier lieu. Mais c'est très favorable au développement d'échanges, car il y a au moins une base commune évidente avec les autres personnes, on possède un animal et on partage un ensemble d'habitudes. C'est donc une bonne accroche pour créer une conversation. Dans quelle mesure les chiens peuvent-ils être considérés comme des maillons? On ne pourrait pas forcément comparer ça à une sorte d'ami commun, mais c'est quand même un vecteur de socialisation indirecte qui peut aider à apprendre et à connaître et cerner les autres en fonction du rapport que ces derniers ont avec notre animal ou celui des autres. Quand on fait des rencontres, intimes ou non, on glane toutes les informations possibles sur les partenaires potentiels. Dans cette optique, la manière dont on interagit avec les animaux peut être un indice tout à fait pertinent. Au-delà de son potentiel de rencontre amoureuse, comment jugez-vous l'importance des parcs canins en milieu urbain? C'est un terrain social où un petit groupe de personnes peuvent se retrouver, un lieu de socialisation particulier pour une catégorie de gens. Je pense qu'il est important de pouvoir préserver ces lieux de rencontre en personne parce qu'ils existent encore malgré l'omniprésence du numérique dans ces sphères-là. C'était « Coup de foudre au parc à chiens », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse.